Je voudrais d'abord nous présenter d'autres visiteurs. Je vais devoir demander au pasteur Eston, pasteur Théobald et le frère Jacques Grandi de pouvoir se mettre debout afin que nous prenions leur connaissance. Nous sommes très bénis par votre présence au milieu de nous. Nous sommes très reconnaissants de ce que vous avez accepté humblement notre invitation pour cette journée spéciale d'aujourd'hui. Et nous disons que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous remettre. À présent, nous nous préparons pour entrer dans nos différents groupes. Et nous allons citer les groupes. Les gens s'élèvent et ils sortent. Mais avant cela, nous allons prier le Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous sommes devant ta face. Merci pour ce programme spécial que tu viens de nous donner. Et tu es en train de l'accomplir à travers tes serviteurs. Ce moment précis, Seigneur, nous voulons les soumettre entre tes saintes mains, afin que tu les diriges. Parle à travers tes serviteurs, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que nos vies de couple soient restaurées, soient affermies. Nous prions, Seigneur, que nos vies de célibataires soit aussi affermi afin que nous menions une vie digne et qui te glorifie. Bénis les offrandes que tes enfants viennent de donner. Ils viennent de te donner de leurs offrandes de libéralité. Ils viennent de te donner de leurs offrandes de dîmes. Ils viennent de te donner aussi de leurs offrandes de reconnaissance. Seigneur, nous prions que tu les sanctifies et que tu les bénisses pour l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Bénis les activités de tes enfants, Seigneur, et accompagne-les à chaque circonstance de leur vie. Au nom de Jésus, amen. Nous allons tout d'abord présenter nos excuses par rapport à ce que nous avons annoncé le dimanche passé. Nous ne serons pas au niveau de la grande salle du Cap, mais nous allons rester ici dans cet enclos. C'est pourquoi si nous vous disons d'aller dans une ou telle autre tente, comprenez que c'est ça ce qui a été aujourd'hui. Nous allons demander aux couples de 0 à 5 ans de mariage de pouvoir se mettre debout. Les amis de 0 à 5 ans de mariage, nous nous mettons debout et quand nous nous mettons debout, nous serons directement en train de sortir et nous allons sous la tente qui est au niveau du parking. Nous allons sous la tente qui est au niveau du parking. Nous sortons directement. Et nous vous annonçons que le culte prendra fin là-bas. Les couples de 6 à 15 ans de mariage, nous pouvons aussi nous mettre debout. Les couples de 6 à 15 ans de mariage. 6 à 15 ans de mariage. Merci beaucoup d'être venus. Nous aussi, nous passons par cette porte à ma droite et nous allons sous la tente qui est au-dessus du chantier de l'Écodim. Nous pouvons directement sortir. Nous allons de ce côté. Il y a une tente au-dessus du chantier de l'Écodim. Les couples de 16 ans et plus, nos chers parents, ils peuvent aussi se mettre debout. Nos chers parents, merci beaucoup d'être venus. Nos très chers parents de 16 et plus, vous allez dans la salle Timothée. Donc nous passons par cette allée et nous allons monter l'escalier jusque dans la salle Timothée. Ça, c'est le couple de 16 ans et plus. Pour dire que tous les autres qui sommes encore assis, nous restons au temple pour ce beau confort. Le Seigneur a un rendez-vous avec vous ce jour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Merci beaucoup, pasteur. Allô, chers célibataires, tout court. Et voilà, mon goût à tout chez vous, mon civil. Que Dieu vous bénisse. S'il y a une place vide devant vous, veuillez avancer, s'il vous plaît. S'il y a une place vide, avancez. Comme ça, on va se mettre tous ensemble. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec notre série Good News. Alors, je vais vous demander à dire à votre voisin good news. Good news, kubenya basikia ke anglais, njo kusema nini? Bonne nouvelle, na kubenya basikia ke français, njo kusema habari njema. Donc, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer encore aujourd'hui. Voilà pourquoi, sans plus tarder, sans trop faire de commentaires, je vais appeler l'homme de Dieu, le frère... Jean Grady, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, nous allons l'accueillir parmi nous. Bienvenue, frère. Bienvenue.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que chacun de nous peut demander à Dieu de lui parler ce matin, de parler avec son cœur, de parler avec sa vie? De dire quelque chose qui n'est que divin et qui peut changer la vie de chacun d'entre nous. Il y a ce cantique qui m'a beaucoup dérangé la semaine, je voudrais peut-être le faire ensemble. Njo nakuitaji le Njo nakuitaji sa Njo Telle est notre prière. Merci de prendre ce temps pour toi. Merci de dire le mot qu'il faut. Merci de te servir de notre faible personne afin de toucher, de transformer une vie ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut donner les acclamations de célibataires? S'il y a un avantage d'être célibataire, c'est sourire quand on veut, parler quand on veut, manger ce que l'on veut, sortir quand on veut. Vous pouvez aussi rajouter. Mais les désavantages, il y en a aussi. Même si vous mettez la veste, combien de prix? Personne pour vous dire que c'est bon ou c'est bon. Vous acceptez quand même vous-même. Acclamez encore très fort pour vous-même. Amen, amen. Je suis béni d'être là parmi nous ce soir, ce matin, cet avant-midi, de partager la parole de Dieu. Aidez-moi à saluer le voisin qui est à votre côté avec un bon sourire. Dites-lui bonjour, comment il va, comment il a passé sa semaine. Demandez les nouvelles, c'est good news, hein?
C'est good news, donc il faut de partager une bonne nouvelle. Alléluia. Alors je disais, je rends grâce à Dieu de pouvoir être là ce matin et de partager la parole de Dieu avec nous. Par le nom, on me l'a déjà présenté, je suis le frère Jean Grady et je suis celui qui va ensemble avec nous partager ses enseignements. Alors cette année est baptisée « Restaurer pour conquérir ». Ça veut dire qu'il y a des choses que le Seigneur fait en nous et pour lesquelles nous avons aussi un autre devoir de continuer l'œuvre que le Seigneur a fait en nous. Mais dans le cadre de nous, jeunes ou célibataires, puisqu'on m'a dit que c'est le culte des célibataires, la série qui a été décidée pendant tout ce mois, c'est quoi déjà? La sœur Annette nous a fait rappeler ici. Vous pouvez me rappeler aussi? Quand quoi? Voilà, good news ou encore la bonne nouvelle. Et depuis quelques semaines déjà, notre papa, le docteur, a bien mis les bases par rapport à cet enseignement. En nous disant que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et maintenant, c'est quoi la suite? Puisque Jésus est mort et ressuscité, la suite c'est maintenant d'aller proclamer la bonne nouvelle de sa résurrection, la bonne nouvelle de ce qu'il a fait à la croix, la bonne nouvelle de tout ce qu'il a commencé à accomplir depuis le jour où il a été annoncé. Mais il a mis les murs de sorte à ce que nous comprenions que le message de la bonne nouvelle, quoique la Bible insiste à l'appeler la bonne nouvelle, n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le terrain. Et il nous a dit que ce message-là est considéré comme un message de folie. Pourquoi? Parce que sur terrain, il y a de cela. Quand vous leur dites que Jésus est mort et ressuscité pour les péchés, ils ont besoin des évidences. Il y avait de cela des évidences d'abord scientifiques, de pouvoir prouver chaque chose avec un raisonnement humain. Et il nous a prévenu que la bonne nouvelle ne servait pas à venir répondre à des caprices humains, celui de pouvoir répondre justement à une démonstration scientifique. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a aussi dit que ce message est considéré comme folie. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui demanderaient le miracle pour croire. Et vous savez que la base de notre foi, ce n'est pas de voir pour croire, mais c'est l'inverse plutôt. C'est de croire pour voir. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il nous a exhorté que c'était important pour nous de pouvoir accepter le message quand il est simple, sans pour autant le compliquer. Il a donné comme cela, cette image-là, des rois mages qui n'ont pas adoré un Jésus puissant, un Jésus qui prêchait partout, mais qui ont adoré, qui ont servi un Jésus bébé, étalé sur une étable, mais c'est à lui qu'ils sont venus donner leur adoration. Et que c'était très important pour nous de marteler sur le fait que cette bonne nouvelle doit être acceptée dans toute sa simplicité. Pas forcément pour satisfaire la curiosité de notre intellect ou satisfaire notre incrédulité humaine, mais ce message, good news, est là pour transformer notre cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces bonnes choses que nous avons apprises? Alors, ce matin, je vais continuer dans la même logique, mais je vais prendre un autre palier complémentaire. Si vous voulez un sous-thème pour ce matin, le sous-thème, c'est les messagers de la bonne nouvelle. Aide-moi à dire ça au voisin. Aide-moi à dire au voisin qui ne sourit même pas. Lui, il regarde seulement. Le messager de la bonne nouvelle. Je ne suis pas un très bon anglophone que vous, j'allais aussi mettre ça en anglais. Alors chacun de nous va le consulter un peu plus tard. Le messager de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, puisque nous parlons d'une bonne nouvelle, puisque nous parlons d'un message, il est important de considérer qu'il y a un complément par rapport à cela. Il y a bon message parce qu'il y a un bon messager. Parler de la bonne nouvelle, c'est justement mettre cet équilibre-là entre ce que nous entendons comme message, mais aussi le messager qui apporte ce message. Le message est comme la nourriture et le messager est comme le contenant, de là où il faudra mettre cette nourriture. Moi qui vous parle, je suis quand même fan de haricots, surtout les haricots blancs. Quand vous l'avez bien grillé, c'est bien saucé, c'est bien dosé sur un bon riz, ah là, vous m'avez. Et surtout s'il y avait une semaine de Champions League, ah là, ma soirée est calée. Mais je peux vous rassurer, frères et sœurs, Peu importe la beauté d'une bonne nourriture que vous, vous aimez, si on vous le met dans une assiette qui est sale, est-ce que vous mangerez avec appétit? Peu importe si c'est la viande, si c'est le biraï, si c'est quoi, je ne sais pas, chacun de nous a encore la possibilité d'avoir son repas préféré. C'est les avantages d'être célibataire, n'est-ce pas? Si on vous met cette nourriture sur une assiette qui est sale, vous ne pouvez pas bien manger. Parce qu'il n'y a pas que la nourriture qui compte. Il y a aussi l'assiette dans laquelle on vous sert la nourriture qui compte. Alléluia. C'est ça un peu. Le message est considéré comme cette nourriture et le messager, justement, est considéré comme le récipient dans lequel nous plaçons cette nourriture. Avant d'aller plus loin, on va lire un texte important. Ésaïe chapitre 52, le verset 7. Ésaïe 52, le verset 7, c'est un beau poème du prophète Ésaïe que j'aime beaucoup. Vous y êtes? Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Avant de revenir sur ce texte pour commenter un peu, je voudrais vous faire trois objectifs importants pour cet enseignement. Le premier objectif, c'est nous permettre, frères et sœurs, à prendre conscience du rôle de messager de la bonne nouvelle que nous sommes. Si ces messages existent ce matin, frères, c'est pour nous permettre à prendre conscience que nous ne sommes pas seulement venus sur la terre pour avoir des belles voitures. Nous ne sommes pas seulement venus sur la terre pour nous marier. Parce que le prochain pas du célibataire, c'est quoi déjà? C'est le mariage. À moins qu'il y ait des célibataires comme l'apôtre Paul qui vont mourir célibataires. Est-ce qu'il y a des célibataires à vie ici ce matin? Hey, personne! Alléluia! Nous ne sommes pas seulement venus sur la terre pour avoir ce que nous voulons, pour se fixer des objectifs personnels et les atteindre. Nous sommes aussi venus sur la terre, d'ailleurs, premièrement, pour accomplir les intérêts de Dieu sur la terre. Et ces intérêts-là passent par le fait que l'évangélisation ou le partage de la bonne nouvelle est un acte important pour chaque chrétien qui a donné sa vie au Seigneur. C'est pourquoi ce message existe ce matin. Frères et sœurs, c'est pour que nous prenions conscience au-delà de tout ce que nous voulons acheter, au-delà de où nous voulons aller, de tous les pays que nous voulons visiter dans le monde, il ne faut jamais oublier que nous sommes des messagers de cette bonne nouvelle. Alléluia. Deuxième objectif rapidement, c'est que nous inculquer les modèles, quelques modèles parce que la Bible en a plusieurs, quelques modèles alors pour pouvoir être des bons messagers. Vous pouvez savoir ce que vous devez faire, mais si vous savez comment les faire, c'est encore mieux. Parce que trop souvent, la forme, ça c'est le juriste qui le maîtrise bien, la forme peut même primer sur le fond. Vous avez raison, mais la procédure a été mal enclenchée. On vous refuse votre raison. Voilà pourquoi c'est important ce matin, au-delà de prendre conscience que nous sommes des messagers de la bonne nouvelle, nous devrions aussi inculquer quelques modèles, quelques lignes à suivre pour pouvoir être ces bons messagers. Et troisième objectif, le dernier, c'est passer à l'action comme de vrais messagers de la bonne nouvelle. Parce que c'est bien de connaître quelque chose. De deux, c'est bien aussi de pouvoir connaître comment il faut faire la chose. Mais c'est encore mieux lorsque vous passez à l'action. J'aime comment Jésus exprimait cela lorsqu'il a lavé les pieds de ses apôtres. Il a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses. Virgile, j'aime la suite. Il dit, pourvu que vous les pratiquiez. La joie de connaître les choses, le bonheur de savoir sur certaines choses, consiste à pouvoir le mettre en pratique. Frères et sœurs, il est bon de savoir que nous sommes messagers, d'inculquer cela en nous, de connaître les modes à suivre, le modèle qu'il faut avoir, mais c'est encore mieux si tout ce qu'il a, si tout ce que nous allons apprendre vont nous permettre alors à passer à l'action. Et ma prière pour quelqu'un ce matin, que le Seigneur te permette, au-delà de savoir ce que tu dois faire, au-delà de savoir comment tu dois le faire, mais surtout de pouvoir le pratiquer. Amen. Amen. Revenons sur notre passage que nous avons lu. Ésaïe chapitre 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alors, ce petit extrait du prophète Ésaïe, si vous lisez dans des Bibles expliquées, on les classe dans le chiffre des poèmes. Parce que le prophète Ésaïe avait un talent un peu particulier que les autres prophètes. Au-delà seulement de dire ce que le Seigneur attendait de lui, mais il le disait avec des gens littéraires. Donc pas seulement « le Seigneur m'a dit que nous souffrirons », mais il était aussi spécialiste à composer des poèmes, à composer des énigmes. C'est comme ça que la plupart de ses prophéties sont catégorisées parmi les poèmes. Et cet extrait du chapitre 57, le verset 7, fait partie de ce poème-là. Alors, je vais un peu vous expliquer l'image de ce poème. Parce que Ésaïe, chapitre 52, il parle de la bonne nouvelle. Et 53, il parle justement du messager qui est le Christ lui-même, le messager par excellence. Mais en ce qui concerne ce poème, il illustre une image d'une ville qui est encerclée, une ville qui a de tours, de murailles. Et les gens qui sont dans la ville, particulièrement les enfants d'Israël, en train de souffrir, en train d'être dans la désolation. Et pour Israël, c'était clair. À chaque fois que le peuple était dans le malheur, le peuple savait que c'est parce qu'il avait abandonné son Dieu. Parce que Dieu avait parlé plusieurs fois à leur père. Il a dit ça à Salomon. Lorsque vous serez ici dans ces pays et que vous ferez des mauvaises choses, moi, l'Éternel, je vous frapperai. Donc, ça tournait tout le temps dans leur tête. À chaque fois qu'ils étaient dans le problème, de savoir que c'est à cause du fait que ils n'ont pas été corrects envers le Seigneur. Mais maintenant, Ésaïe donne ses poèmes pour donner un peu de l'espoir, pour dire, c'est vrai, votre Dieu vous a frappé, c'est vrai, votre Dieu, vous ne l'avez pas obéi, certaines choses vous sont arrivées par malheur, mais qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui vient vous annoncer la bonne nouvelle. En d'autres termes, vous êtes assiégés dans cette ville de muraille, mais on peut apercevoir de loin quelqu'un qui est en train de courir avec un rouleau et qui dit, bonne nouvelle, Sion, ton Dieu règne. Voilà un peu l'image de ce poème. Et c'est ce qui me permet, frères et sœurs, de vous donner quelques affirmations en ce qui concerne le rapport du message et du messager. Aide-moi à dire au voisin le message et le messager. Voilà, comme ça, il ne va pas oublier. Il faut se rassurer. Premièrement, c'est que, première affirmation, il y a une connexion forte entre le message et les messagers. Il y a une connexion forte entre le message et le messager. Écoutez comment l'apôtre Paul explique le verset que nous avons lu dans Ésaïe. Mais écoutez le schéma qu'il fait dans Romains chapitre 10, le verset 13 au verset 15. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Mais comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles? Remarquez dans ce texte, il rappelle justement ce que nous avons lu dans Ésaïe, mais il place un schéma. Il dit, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui doit annoncer la bonne nouvelle, mais cette nouvelle-là consiste à permettre aux gens d'être sauvés. Mais ça ne se fera pas, le message ne quittera pas de lui-même au ciel pour venir dans le cœur. Il faudra qu'il y ait des gens qui vont apporter ce message-là. Il faudrait qu'il y ait des personnes habilitées qui ont cru et qui ont pris le message à leur portée et qui l'ont apporté aux autres. Donc le message qui sauve vient avec un messager. Le message qui doit transformer ne descend pas du ciel. Il y a quelqu'un qui se préoccupe de prendre ce message-là et de l'amener à d'autres. Alléluia. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas séparer les deux. Si vous voyez le messager, ça veut dire qu'il est en train de venir avec le message. Souvenez-vous du poème que je venais de nous le dire. Et qu'ils étaient là, encerclés dans une ville, et de loin, on pouvait apercevoir le messager en train de venir avec le message. Alléluia. Quatrième affirmation. Deux, voilà. Généralement, on voit le messager avant de recevoir le message. Remarquez ce qu'il dit dans Ésaïe 52:7. Il dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles. Nous sommes dans une époque où il n'y a pas Telegram, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Messenger, il n'y a pas Snapchat. C'est-à-dire, on est dans la ville en train d'être assiégé et on voit de loin les messagers en train de venir. Il ne va pas faire une note vocale pour dire, voilà, je suis là en train de vous amener le message. Non, la Bible dit qu'il est beau sur les montagnes de voir le messager en train de venir avec le message. Mais comme il ne peut pas crier de loin pour que l'on entende, Les messagers doivent d'abord arriver jusque dans la ville. Mais dans ce processus-là, on voit d'abord le messager avant de voir le message. Frères et sœurs, si vous pensez que prêcher ce message de la bonne nouvelle, ça veut dire le jour où vous serez ici aussi en train d'ouvrir des versets pour le partager. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Nous commençons d'abord à prêcher par notre vie. Nous commençons d'abord à prêcher par notre histoire. Au point que ce qui sort dans notre bouche n'est que soit la conséquence logique d'une vie que nous vivions déjà. Alléluia. Ma sœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu vas te préparer à partager Jean 3,16 avec quelqu'un, mais dès lors que tu mélanges Junior et Patrick, tu as déjà commencé à prêcher. Est-ce que je peux avancer? Ça veut dire que mon frère, peu importe les beaux discours qui sortira de ta bouche, dès lors que tu n'en as pas qu'une seule, mais tu as 14 comme 14 Ligue des champions de Real de Madrid, mon frère, tu as déjà commencé à prêcher. En d'autres termes, là vers la montagne, on ne voit pas encore le message parce que le messager doit venir et ouvrir le rouleau. Mais alors qu'il est encore au loin, c'est sa vie que l'on voit, c'est ses efforts que l'on voit, c'est ce qui dégage de sa vie qui vient d'abord avant même le message que tu l'apportes. La faiblesse de l'évangile, parce qu'elle n'est même pas faible, l'évangile est puissante. Aujourd'hui, l'incrédulité monte, pas à cause du message. Les gens connaissent que Jésus est mort et ressuscité pour eux. Mais les gens posent beaucoup de questions sur les personnes qui leur disent que Jésus est mort pour eux. Alléluia! Ce qui rend le message difficile à être accueilli, ce n'est pas d'abord ce qui est écrit dans le texte. Non, c'est ce que nous-mêmes nous dégageons par notre propre histoire. Comment tu veux que Janvier puisse te croire alors que Janvier vient de découvrir qu'il y avait aussi un autre Patrick dedans? Et vous êtes devenu calme, du coup. Alléluia! Le messager est vu avant d'entendre son message. Ma prière pour quelqu'un ce matin, que ta vie de messager soit forte. Que la vie que tu mènes, que l'histoire que tu as, raconte plus que ce que tu diras de ta bouche. Parce que le message n'est que la conséquence de la vie du messager. On voit d'abord le messager avant d'écouter son message. Alléluia! Les services marketing ont bien compris cela. Et on fait souvent la différence entre le micro-baladeur et les panneaux publicitaires. Et on dit souvent dans les études de marketing que les micro-baladeurs, bon, pour expliquer de manière simple, ce sont ces personnes-là qui font la publicité d'un produit avec une radio ou avec, je ne sais pas, un outil sonore. Ça passe souvent dans vos avenues, moi aussi je les entends. Peut-être pour un savon, mais vous voyez quelqu'un en train de circuler avec un appareil sonore, enfin de vous donner la publicité, de vous dire les biens de ces savons. Et ici à Goma, je peux vous rassurer, il y en a de toutes les couleurs. J'en ai même entendu quelqu'un faire la publicité du savon et puis il dit que les savons là, ils n'ont tous à prostate. Vous pouvez imaginer. Savon, ils n'ont tous à prostate. Hey! Le niveau de technologie est très élevé. Hein? Alléluia. Alors, dans le service marketing, on remarque que le fait qu'il y a un micro-baladeur qui passe pour faire la publicité d'un produit est très limité. Parce que dès lors qu'il a passé sur votre avenue, vous n'entendrez plus parler de ce message-là. Et puis, le micro-baladeur ne peut pas travailler H24. S'il travaille peut-être du matin jusqu'à une certaine heure. Et puis, il peut avoir la voix cassée comme moi déjà là pendant que je vous parle. Mais on fait la différence entre le micro-baladeur et les panneaux publicitaires. Nous qui faisons souvent Jiachin, nous connaissons les panneaux publicitaires. Il y en a plein ici à Goma. Les panneaux publicitaires ne parlent pas. Les panneaux publicitaires ne sont pas bavards. Ils sont juste là, immobiles. Mais ils ont un avantage de rester là H24. On peut, à force que les gens passent, ils voient le message qui est affiché, ils peuvent retenir et garder le nom du produit, la marque du produit, la couleur du produit. Quelqu'un a compris cette image? C'est un peu comme ça le message et le message. C'est comme ça que moi je le comprends. Lorsque nous prêchons, nous sommes comme les micro-baladeurs. Mais lorsque nous vivons, nous sommes comme ces panneaux publicitaires-là. Nous ne parlons pas beaucoup, nous sommes immobiles, mais notre vie devient une inspiration. Notre vie devient une référence. Notre vie devient une histoire à laquelle on peut s'accrocher. Voilà pourquoi vous entendez les gens dire, si je peux croire, je croirai au Dieu du frère tel. C'est pas forcément une aberration, mais c'est la qualité de la vie de cette personne qui impacte la vie d'un autre. Et l'autre dit, non, je veux son Dieu. Je vais dire une phrase que je vais peut-être répéter. Ce que nous disons peut crier très fort, mais ne criera jamais très fort que ce que nous vivons. Je veux reprendre ça. Ce que nous disons crieront peut-être très fort, mais ne crieront jamais plus que ce que nous vivons. Ma prière, c'est que tu sois un impact dans ton quartier. Ma prière, c'est que tu sois un impact dans ton église. Ma prière, c'est que tu sois un impact partout où tu penses. Que ce que tu es reflète au mieux ce que tu dis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième affirmation importante par rapport à ce texte, c'est que quelquefois l'appel du messager est d'abord individuel avant d'être collectif. Remarquez bien dans le texte, il dit « Les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, les pieds de celui qui apporte. » Dans la Bible, très souvent, il y a des appels collectifs. Vous vous rappelez de cette phrase où Jésus disait à la femme samaritaine que le Père cherche des adorateurs. Même l'apôtre Paul, parlant d'explication de messager, il parle des prédicateurs, il parle au pluriel. Mais j'aime la particularité d'Ésaïe. Ésaïe dit, lorsque nous sommes coincés et que nous n'avons pas d'espoir, il est bon pour nous de voir quelqu'un venir nous annoncer la bonne nouvelle. Pas d'abord qu'il vienne en masse, mais d'abord que quelqu'un vienne. On va le voir même plus tard, comment Jésus a pratiqué ces mots ici. En autre terme, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la responsabilité d'être messager de la bonne nouvelle n'est pas d'abord une responsabilité des autres. C'est d'abord notre responsabilité à nous. Nous, en tant que personnes individuelles. C'est pourquoi Ésaïe précise, les pieds de celui qui apporte, pas de ceux qui apportent d'abord. Non, on arrivera un moment où on fera cela en collectif, mais il faudra que ça soit d'abord personnel. Frère, toi aussi, tu dois avoir le témoignage d'avoir amené quelqu'un au Seigneur. Pas seulement quand le département de l'évangélisation le fait, pas seulement quand il y aura la descente de la jeunesse, mais toi-même, tu peux prendre la décision d'évangéliser cette fille de ton quartier, de partager la parole avec ta copine de l'auditoire, de partager la parole avec les gens que tu croises. Alléluia! Ésaïe dit, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, pas d'abord de ceux qui apportent des bonnes nouvelles, mais celui qui apporte. Pas comme nos vidéos là de TikTok, nous célibataires, ce n'est pas mon anniversaire. C'est l'anniversaire de qui? Ce n'est pas moi le messager, c'est le messager d'elle et lui. On a entendu tout avec ça. Alléluia! Aide-moi à dire aux voisins, oui, c'est ta responsabilité. J'aurais appris qu'à la fin, on dit, oui, c'est ton anniversaire, on crie. Donc toi aussi, tu parles et puis tu cries pour lui. Oui, c'est ta responsabilité. Oh. Alléluia! L'appel à être messager, généralement, commence d'abord individuel avant d'être collectif. Dernière affirmation pour passer le temps, c'est que le message est la valeur ajoutée du messager. Je veux répéter ça. Le message est la valeur ajoutée du messager. Toujours dans notre texte, Ésaïe 52, 7. Remarquez, il dit, ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Je vous ai dit que c'est une poésie. Franchement, encore une fois, un peu dans l'histoire, nous sommes dans une période où il n'y a pas de chaussures. En fait, chaussures, pas comme nous avons des baskets, Air Max, Air Nike. Non. Nous sommes dans une époque où il n'y a pas de boots. Nous sommes dans une époque où il y a des sandales. Et à cette époque, il n'y a pas de Range Rover ou de Bugatti. Non. Les gens marchent généralement soit par les chevaux, soit à pied. Et vous pouvez vous imaginer, c'est des sandales et des sandales qui ne couvrent presque pas tout. Une autre notion importante de cette histoire, c'est qu'à l'époque, bon, même pas à l'époque, mais le climat de cette contrée-là judaïque, c'était un climat aride. Il fait généralement chaud. Donc, on peut s'imaginer à un désert, etc. Alors, comment Ésaïe dit que quelqu'un est en train de courir à pied, parce qu'il précise, c'est lui qui apporte la bonne nouvelle, à pied avec des sandales comme ça, ses pieds peuvent être beaux. Comment c'est possible? Dans la réalité, ses pieds ne peuvent pas être beaux. Mais Ésaïe précise, nous sommes dans la poésie. Parce qu'en poésie, il y a l'explication littérale et l'explication littéraire. Alors, l'explication littéraire, c'est celle-ci. Ésaïe dit, les pieds ne sont pas beaux à cause de l'état de problème que tu as. Les pieds sont bons à cause du message que tu apportes. C'est le message qui rend les pieds beaux. C'est la profondeur de ce message, la qualité de ce message fait en sorte que ce message-là puisse rendre tes pieds beaux. Ce n'est pas toi qui es beau. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du fait que le fait que tu es en train d'apporter un bon message, alors tes pieds aussi deviennent de beaux pieds. Frère, ce que Esaïe nous apprend ici, c'est que à chaque fois que nous faisons de l'évangélisation, du partage de la bonne nouvelle, notre priorité, cela ajoute une valeur à notre vie. Cela ajoute une valeur ajoutée. Et les sciences économiques disent que lorsque vous parlez de la valeur ajoutée, c'est que vous êtes en train de parler d'un bénéfice supplémentaire d'un produit ou d'une ressource humaine. Lorsque quelqu'un peut vous apporter un peu plus, et c'est ce que le message fait dans la vie du messager. Il vous apporte un peu plus, un peu plus. Il vous apporte un peu plus d'éclat. Vous n'êtes pas réellement beau, mais c'est le message que vous portez qui vous rend beau. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons juste pas vivre pour nous-mêmes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons juste pas courir pour nous-mêmes. Nous devons courir pour les intérêts de Dieu. Parce qu'en lisant Esaïe, nous comprenons que le message est une valeur ajoutée du messager. J'ai dit dans mes objectifs qu'il serait question aussi des modèles, de la manière à suivre pour devenir de bons messagers. Qu'est-ce que je peux nous dire en cela? Nous allons prendre deux vérités avant de clôturer. Première vérité, pour être un bon messager, puisqu'on a fait un très long discours sur le message et le messager, comment alors pouvons-nous devenir de bons messagers? Parce que ça, ce sera justement la question logique. Oui, c'est bien bon, le message et le messager. On a compris la connexion. Maintenant, comment faire pour être un bon messager? Première vérité, c'est quoi? C'est le témoignage du messager. Aidez-moi à dire au voisin, ne vous fatiguez pas. Au voisin de droite, s'il vous plaît, il est trop timide, il a perdu son sourire. Le témoignage du messager. Lisons quelques portions d'écriture et après qu'on va nous mettre à commenter. Jean chapitre 4, le verset 39. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 jusqu'à 11. Et nous lirons aussi Actes chapitre 1, le verset 8. Je commence par Jean chapitre 4, le verset 39. Je lis au nom du Seigneur. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. J'aime la même portion d'écriture dans la version Semer. La version Semer dit ceci. Il y a eu dans cette bougarde beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus à cause, grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant, il m'a dit tout ce que je fais. Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 11, je vais lire rapidement dans la version Semer. Il dit, frères et sœurs, je vous rappelle que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous demeurez attachés, c'est par cet évangile que vous avez été sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de la première importance que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, aux 12. Après cela, il a été vu par 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques,
puis à tous les apôtres. J'aime le verset 8, il dit, « En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter les titres d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est la grâce de Dieu que je le dois. Cette grâce qui m'a témoigné n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, mais certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons. C'est que vous avez cru, parole du Seigneur. Le témoignage du messager. Le dictionnaire dit quelque chose d'intéressant dans la catégorie sens figuré, que le témoignage est une action de déclarer ou d'avouer, mieux encore, de reconnaître. Une autre définition que le dictionnaire nous offre est que le témoignage, c'est une preuve, une marque extérieure de quelque chose. Le message, il est bon. Il faut annoncer le message. Mais pour être un bon messager, il faut un bon témoignage. Je vais préciser le vrai témoignage du messager. Et nous venons de lire ici qu'au travers du dictionnaire, que lorsqu'on dit témoignage, c'est une marque extérieure. Mais moi, je vais un peu élargir la tâche pour dire cette marque extérieure découle de quelque chose qui s'est passé d'abord à l'intérieur. Alléluia. Une réalité profonde intérieure. Et puisque cette réalité a été intérieure, alors il y a une conséquence logique. La conséquence logique, c'est que sur le plan de l'extérieur, nous allons remarquer cette preuve qui vient d'abord de l'intérieur. Et nous avons lu trois textes. Et les trois textes ont un point commun. Le point commun, c'est quoi? C'est que dans chacune de ces personnes, premièrement, ils ont eu à annoncer le message de la bonne nouvelle. Que ce soit les apôtres dans Actes 1-8, que ce soit l'apôtre Paul dans le livre de Romains, ou que ce soit la femme samaritaine. Le deuxième point commun de tous ces textes, c'est que chacun part de son expérience personnelle aussi. Chacun emporte avec lui ce qu'il a vécu d'abord lui-même. Les apôtres ont vécu avec Jésus et ils ont cru en son ministère. L'apôtre Paul, n'en parlons pas, nous connaissons l'histoire de Damas où Jésus s'est apparu à lui. Mais il y a quelqu'un de particulier que j'aimerais bien partager avec vous, c'est la femme samaritaine. La Bible dit aussitôt qu'elle était venue chercher de l'eau dans cette cruche, si vous lisez l'histoire de Jean chapitre 4, cette femme était venue chercher de l'eau et Jésus a eu à le convaincre dans ces puits-là. Et la Bible dit que la femme a laissé sa cruche et rentré dans son village ou dans sa bougarde, comme ses mères le disent, afin d'annoncer. Mais écoutez, la Bible précise. La Bible dit que la femme m'a dit, « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais. » La femme n'a même pas dit, « Venez croire en lui. » La femme n'a même pas dit, « C'est lui qui ressuscitera d'entre les morts. » Non, la femme a juste dit, « C'est lui qui m'a dit tout ce que je fais. » Il y a quelque chose qui me rend intéressant dans cette histoire. La femme, quand elle parlait à Jésus, il semblerait qu'entre elle et Jésus, ils sont tombés d'accord sur le fait que la femme entretenait 5 maris. Moi, je me pose la question. Maintenant qu'elle est en train de rentrer dans sa ville pour appeler les gens, vous êtes sûr que dans la foule des gens qui sont venus, il n'y avait même pas son ex qui est venu? Vous êtes sûr que dans la foule de ces personnes qui sont venues à Jésus, il n'y avait même pas l'une des femmes rivales du mari qu'elle avait volé? Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette femme ne prend même pas en compte si les gens vont bien m'apprécier, si les hommes vont bien m'écouter. La femme apporte seulement le témoignage de ce qu'elle a vécu, de la transformation qu'elle a vécue en l'intérieur. Frères et sœurs, quand je dis ce matin le témoignage du messager, je veux dire votre histoire avec Jésus. Je veux dire votre vécu avec Jésus. Je veux dire là où Jésus vous a rencontré, vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres par rapport à cela? Parce que quelquefois, ce n'est pas le verset répété que les gens ont besoin d'écouter, mais c'est l'expérience que nous-mêmes nous avons faite. Et l'apôtre Paul est un exemple. Il dit, comme aux autres, Jésus est apparu à Pierre, Jésus est apparu aux 500 frères, Jésus est apparu à tous les apôtres, mais à moi aussi, il m'est apparu. à moi aussi. Je conserve en moi, dans mon esprit, dans ma vie, les traces d'une expérience personnelle avec Jésus. Frères et sœurs, quel est ton témoignage avec Jésus? Frères et sœurs, quelle est ton histoire avec Jésus? Ça s'est passé comment? Tu étais dans quoi et Jésus t'a emmené dans quoi? Tu étais chez qui et Jésus t'a enlevé chez qui? Quel est ton témoignage avec le Seigneur? Quelle est ton histoire avec le Seigneur? Parce que tu ne peux pas être un bon messager si, au préalable, tu n'as pas cette histoire-là. Ce n'est pas forcément d'avoir un passé criminel comme l'apôtre Paul. Non, j'ai persécuté l'Église. Non, je fais ceci ou je fais cela. Non, pas forcément. Mais c'est aussi le fait que vous pouvez détecter dans votre vie ce que vous étiez avant Jésus et ce que vous êtes devenu après Jésus. Quel est le rêve qui ne s'accomplira plus parce que vous connaissez maintenant le Seigneur? Et à contrario, quel est le rêve qui va maintenant s'accomplir parce que vous connaissez le Seigneur? Lisons quelque chose de fort dans la parole de Dieu. Philippiens chapitre 3, le verset 6 et 8. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, « Et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église en ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi. J'étais irréprochable, mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte. Pas à cause de l'argent, pas à cause du succès, pas à cause de mes propres rêves, mais il dit, à cause du Christ. Je considère même toutes choses comme une perte en comparaison de ces biens suprêmes. Des points, c'est quoi le bien suprême? Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme de déchets afin de gagner Christ. » Waouh! Quelle profonde déclaration. D'un homme qui avait une vie, d'un homme qui était, comme il a dit, irréprochable. Mais cet homme peut détecter dans sa vie un avant et un après. Ce qui tue les messages, c'est généralement cela. Notre incapacité de détecter ce que Jésus a fait pour nous. Notre incapacité de pouvoir partager avec les autres l'expérience profonde. Parce qu'il n'y a que deux hypothèses. Soit vous l'avez, vous pouvez partager, et soit vous ne l'avez pas. Ma question pour toi dans ton cœur, c'est quoi ton cas ce matin? Et ce n'est même pas trop tard, parce que ces messages viennent justement au bon moment. Afin que mon frère, ma sœur, tu prennes conscience qu'il est temps pour toi de développer une vie profonde avec le Seigneur, de développer un témoignage qui servira alors à te rendre un bon messager. Alléluia. Deuxième vérité, en chutant directement, à part le fait d'avoir le témoignage du messager, mais il y a aussi les prix à payer du messager. Aidez-moi à dire ça aux voisins, le prix à payer. Change de voisin, le voisin de derrière, s'il te plaît. Dis-lui le prix à payer. Alléluia. Les prix à payer pour être un bon messager. Lisons encore la parole de Dieu. Actes chapitre 20, le verset 24. Toujours l'apôtre Paul. Dans la version seconde, il dit ceci. Mais je n'ai fait pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, les ministères que j'ai reçus du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de grâce. Écoutez la version sommaire. Il dit, ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur Jésus m'a confié, c'est-à-dire proclamer l'Évangile, ces messages de la grâce de Dieu. J'aime la version française courant. Elle dit ceci, cette version. Ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission, d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. Deux points, proclamer la bonne nouvelle de grâce. Frères et sœurs, quand je dis les prix à payer, je veux dire la capacité de faire des intérêts de Dieu la priorité de nos vies. Quand je dis les prix à payer, c'est cette capacité de faire accession A ma vie, accession B la vie de Jésus. Mais je décide de prendre l'accession B à cause de l'importance de mon témoignage. Vous voyez que les choses se complètent. Hein? Parce que si vous avez un fort témoignage, le prix à payer n'est qu'une conséquence. Si vous avez un fort témoignage intérieur de votre relation avec Jésus, le prix à payer n'est qu'une conséquence logique. Et l'apôtre Paul est en train de parler à nous, l'Église, aujourd'hui, mais à l'époque, il parlait à ses frères. Il dit, ma vie, c'est comme si ça ne compte même plus à mes yeux. C'est comme si je n'existe même pas, parce que je suis tellement déterminé à amener ces messages plus loin. Au point que si je ne mange ou si je ne mange pas, ça vient vraiment en secondaire. Mais ce qui est d'abord primordial pour moi, c'est ma capacité à moi de payer les prix, d'aller au bout, de pouvoir partager la bonne nouvelle. Frères et sœurs, Jésus disait quelque chose de fondamental, que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, mais il précise, à cause de moi, la récupérera. Et quelquefois, la meilleure façon pour nous de vivre notre célibat, c'est nous donner, de payer les prix pour la bonne nouvelle, de payer les prix pour le message de la bonne nouvelle. Parce que ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas ce que nous accomplissons pour nous-mêmes. Ce qui compte vraiment est très important pour Dieu, ce que nous accomplissons pour lui. Je l'ai dit au départ ici, nous ne sommes pas venus sur la terre que pour nous-mêmes. Oui, pour nous-mêmes, c'est important. C'est important de faire des études. C'est important de se marier. C'est important de gagner de l'argent. Oui, d'ailleurs, les réseaux sociaux disent quoi? Cherchant. Voilà. C'est important toutes ces choses, mais ces choses ne sont jamais importantes que les intérêts, les priorités de Dieu. Et l'apôtre Paul le souligne, il dit, ma propre vie, je la regarde comme si elle ne m'était pas précieuse. Ce n'est pas que je me néglige, ce n'est pas que je me méprise, mais je prends conscience entre ce que je dois faire pour moi et ce que je dois faire pour le Seigneur. Ce que je dois faire pour le Seigneur est plus important. Quel est le jour où vous avez manqué d'appétit parce que quelqu'un était dans le péché? Quel est le jour où vous avez manqué du temps de prière pour vous, juste pour prier pour que quelqu'un soit connecté à Dieu? Quel est le jour où votre prière était tournée pour que les salis viennent dans la vie de ceux de vos familles qui ne sont pas encore convertis? Quel est le jour où votre prière a commencé à vous oublier d'abord et regarder ce que les autres sont? Quel est le jour où vous avez fait cela? Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être des bons messagers de ce message si nous ne payons pas le prix. Et ceux qui ont vécu avant nous l'ont fait. Ils ont payé le prix. Si vous lisez les histoires des apôtres, ils ont même été décapités pour certains. Même les missionnaires qui nous ont apporté la parole, ici dans notre pays, dans cette église où je me tiens, le missionnaire Paul Hulbert et les autres qui sont venus entre 1924 et 30, ils ont payé le prix. J'ai lu un livre sur le missionnaire. Il y en a même qui sont morts de malaria. Vous pouvez imaginer mourir de malaria. Parce qu'il venait d'un climat très froid sur un climat tropical. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore toute la médecine qu'il y a aujourd'hui. Il y en a qui ont perdu de leur vie ici, afin que nous puissions avoir ces beaux cadres de CEBK. Frère, si cette parole, nous l'aimons, si cette église, nous l'aimons, c'est parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix. Et à notre tour de faire notre part. Elle ne peut pas s'arrêter à nous. La meilleure façon de répondre à une bonne action, c'est de faire aussi une bonne action. Si elles nous ont atteints par la prise de conscience du sacrifice, à nous aussi de nous sacrifier. Quand vous regardez ce pays, tout porte à croire qu'il y a urgence, frères et sœurs, de pouvoir partager la parole de Dieu. En réalité, ce n'est pas les prisons qui manquent. En réalité, ce n'est pas les politiciens qui manquent. Mais il y a quelque chose de fondamental qui manque. C'est Jésus dans le cœur des gens. Parce que l'audace qu'un humain peut avoir de ôter la vie de son frère, il manque lui. C'est seulement parce qu'il n'a pas Jésus en lui. Alléluia. Tout porte à croire dans notre pays qu'il y a urgence d'annoncer la bonne nouvelle. Tout porte à croire que les signes sont là, qui nous montrent que les choses sont en train d'aller de mal en pire. Mais chrétien, pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu fais? C'est bien de poster les SOS affichés sur nos réseaux. C'est bien d'écouter la radio pour savoir ce qui se passe. Mais il y a encore mieux à faire, c'est d'amener la bonne nouvelle dans le cœur des gens. Alléluia. Ce message, c'est pour toi, mon frère. Ce message, c'est pour toi, ma sœur. Le Seigneur compte sur nous. Compte sur toi et moi ce matin, afin que nous puissions être des messagers de sa bonne nouvelle. Alors que nous sommes encore des célibataires. Nous n'avons pas encore des excuses, femmes, enfants, famille. Nous avons encore toute la vigueur possible. Nous avons encore la force. Je le dis au début en blaguant, mais c'était sérieux. Nous avons encore le choix La liberté de choisir où nous voulons aller. Est-ce qu'aujourd'hui ne peut peut-être pas être le jour où tu prends l'engagement que ta vie serve à une cause beaucoup plus grande? Est-ce que n'est-ce pas aujourd'hui l'opportunité pour toi et moi que le choix que tu as, la liberté que tu as de donner ta vie pour une grande cause, une cause pour laquelle tu ne perdras pas? Jésus disait, n'ayez pas peur de ce qui tue le corps et la chair, mais ayez peur de celui qui, après avoir tué le corps et la chair, il peut aussi atteindre l'âme. Et je peux lever ma main pour dire, c'est celui-là qui n'oublie jamais quelqu'un. Si vous vous êtes donné pour lui, il vous rendra fier de vous. Si vous vous êtes donné pour les intérêts de Dieu, Dieu prendra soin de votre famille. Dieu prendra soin de votre mariage. Dieu prendra soin de vos enfants. Dieu prendra soin de vos études. Donnez votre énergie et votre temps au service de Dieu. Ma sœur, cette beauté-là, ce n'est pas seulement pour le vidéo TikTok, c'est aussi pour faire une vidéo TikTok où tu dis aux gens, donnez votre vie à Jésus. Ce n'est pas seulement pour faire les challenges de musique ou pour nous montrer la nouvelle cabelle. Non, c'est aussi pour dire aux gens, le Seigneur est à la porte, revenez à Jésus. Je m'en fous que ça n'aura pas beaucoup de j'aime. Oui, c'est vrai. Je m'en fous qu'il n'y aura pas beaucoup de commentaires, mais il y aura un commentaire dans le cœur de celui qui croira à ce message. Est-ce qu'aujourd'hui, ma jeunesse, ta jeunesse peut servir à quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, ton temps, mon temps peut servir à quelque chose? Et si tel est le cas, c'est de devenir de messager de la bonne nouvelle. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu, mais je voudrais que tu sois révolté comme je le suis et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait une histoire qui s'écrit entre un avant et un après. J'aimerais qu'aujourd'hui soit le jour décisif de ta vie. L'un des jours où tu marqueras même dans un agenda pour dire « Ma vie a basculé ce jour-là. » Pas à cause du fait que j'avais eu beaucoup d'argent, mais juste parce que j'ai compris qu'en tant que jeune célibataire, j'avais l'opportunité d'être le messager de la good news. J'avais l'opportunité d'être le messager de la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut nous entonner ce cantique qu'on a fait au début? Joe. Est-ce que tu peux lever ta voix et tu pries? Lève ta voix, parle au Seigneur, Joe. Comme une confession, Joe.
Seigneur, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois de nous parler aujourd'hui. Tu nous dis que nous devons beaucoup vivre ton évangile que de le dire. Seigneur, étant tes enfants, nous avons des faiblesses. Mais c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est dans nous. Voilà encore une fois, Seigneur, nous sommes en train de te supplier du plus profond de notre cœur que le Saint-Esprit nous conduise. Quand nous serons au campus, quand nous serons dans la vie professionnelle, nous voulons être conduits que par toi. Seigneur, nous nous dépouillons de toutes choses afin que ton évangile passe au-devant de nous. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as dit que tu ne nous délaisseras jamais orphelins. Et même quand, Seigneur Dieu, nous allons se détourner de ton chemin, tu es prêt de nous ramener dans la bonne voie. Merci pour cette opportunité que tu nous octroies, afin que, Père, nous puissions marcher encore une fois avec toi. ces très beaux moments, nous les redédions entre tes mains. Et c'est même la raison pour laquelle nous sommes en train de te prier dans le nom puissant de notre Seigneur et ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est vivant. Qui? Voilà la bonne nouvelle.